Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citeclan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bonsoir et bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition qui sera consacrée aux livres qui sont parus en lien avec le film The Rise of Skywalker. Je suis GF et ce soir, je suis accompagné de Danny. Bonsoir Danny.
Bonsoir GF.
Et de Cécily. Bonsoir Cécily.
Bonsoir GF.
Donc, Danny, Cécily, quoi de neuf côté Star Wars ou côté Geeks pour vous?
Ouais, ben vous m'avez sorti encore de la retraite, ça a l'air. ben vu que j'étais le seul d'avoir le livre Art of the Rise of Skywalker pour l'instant, bon ben je me suis fait inviter puis je vais en parler ce soir. À part de ça, ben je suis aussi ici pour tester le nouveau système de diffusion de vidéos à distance. Le but ici c'est principalement de voir si c'est un système qui va fonctionner pour le futur. Et puis mais aussi parce que les héritiers de la Force qui s'occupent de Génération Star Wars et Science-Fiction nous ont offert la possibilité de diffuser notre panel qui était prévu à QC, mais de le faire en ligne. Fait qu'on teste aussi pour voir si c'est faisable. Donc le résultat de ce soir va vraiment être déterminé si on va le faire de cette façon ou si on va le faire de façon traditionnelle en fait. Bien sûr, je continue à écouter la 7e saison de Clone Wars, dont d'ailleurs nos collaborateurs viennent tout juste d'enregistrer l'arc d'Ahsoka pour Star Wars en direct Clone Wars. Bien sûr, j'ai bien hâte de recevoir mon Blu-ray à la fin du mois, j'espère, pour voir le fameux documentaire que vous avez parlé la dernière fois, le Skywalker Legacy que j'ai bien hâte de voir. Et puis, je dirais que finalement, vous avez sûrement vu sur nos réseaux sociaux, j'ai commencé à repasser tous nos lives, nos vidéos qu'on avait faites par rapport à Star Wars Celebration l'an dernier. Donc, on est encore jour pour jour à un an après. Donc, on approche de la fin de la convention, mais allez sur notre page Facebook, vous allez pouvoir voir tous nos reportages, etc. qu'on a fait. C'était vraiment le fun, puis ça m'a fait tout revivre ça en écoutant, réécoutant toutes les petites vidéos. Là. C'était vraiment le fun. Là. Et je suis dans mon Star Destroyer.
All right, excellent. Et toi, Cécily, ton côté?
Côté Star Wars, j'ai débuté la lecture de The Lost Star. Je l'avais pas lu quand il est sorti. Je l'avais acheté v'là un bon moment, mais enfin, j'ai commencé. J'ai terminé la lecture de l'autobiographie de Carrie Fisher, de Princess Diarist. Je l'ai plutôt apprécié, mais le livre tournait surtout autour de la liaison entre Carrie et Harrison. Sinon, j'ai profité du Double XP à Battlefront 2. Côté geek, j'ai commencé la série sur Netflix Lock and Key, que j'aime vraiment.
J'adore cette série, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. C'est un peu comme Goonies, un petit peu plus sérieux.
Ouais, c'est ça.
C'est bon.
J'ai lu un roman en anglais appelé A Curse So Dark and Lonely. C'est dans le fond un retelling de La Belle et la Bête, que j'ai vraiment aimé. Et aussi, ben, je me suis procuré Animal Crossing sur la Switch. Et je suis accro, malheureusement.
All right, excellent. Moi, côté Star Wars, absolument rien depuis la semaine dernière. J'ai écouté Lock and Key comme vous, mais moi, j'ai pas vraiment aimé. La raison pourquoi, c'est que moi, j'ai lu la BD, puis ils ont complètement changé tout l'aspect mythique qu'il y a dans la BD qu'on retrouve pas dans la série. Puis moi, je trouve que c'est cet aspect mythique qui faisait que la série était vraiment bonne. Donc, ça m'a un peu agacé. J'ai acheté le remake de Final Fantasy VII pour PS4, jeu que pas mal tout gamer connaît. Et c'est excellent. Ça ramène plein de souvenirs d'un jeu que j'ai joué il y a à peu près 20 ans. Donc, c'est vraiment cool.
Cool.
C'est ça. Alright, donc on va vous rappeler nos plus récentes émissions. On a eu le Star Wars en direct sur le Blu-ray de The Rise of Skywalker qu'on a fait la semaine dernière. Il y a aussi le Star Wars en direct sur être fan de Star Wars dans les années 2010. On sait que c'est pas facile d'être fan dans les années 2010 de Star Wars. Et on rappelle aussi les capsules Star Wars 101, capsules qui apparaissent à toutes les semaines, sauf qu'à partir de maintenant, ils vont être à toutes les deux semaines pour les prochaines semaines, les prochains mois.
Mais au moment qu'on enregistre, il va en avoir un d'ici à ce que ce podcast paraisse. Il va en avoir un. Il est diffusé. Ah,
okay. Excellent. Cool. Alors, on rappelle que vous pouvez joindre notre communauté de fans et d'auditeurs et participer à nos enregistrements live sur notre serveur Discord. Et vous pouvez aussi montrer vos couleurs de Star Wars en direct sur notre boutique. Donc, si vous allez sur notre page Facebook, il y a un bouton « Shop Now ». Ou si vous allez sur notre site StarWars.direct dans le menu, il y a aussi un menu pour aller à la section « Boutique ». Et on va en profiter pour remercier nos partenaires Mintinbox, Star Wars Olonet, Clan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction. Et sur ce, on va en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, ce soir, nous allons discuter de trois livres reliés à The Rise of Skywalker, donc suite à notre critique du Blu-ray de la semaine dernière. Ce soir, nous allons faire la critique du livre Art of Rise of Skywalker, le Visual Guide de Rise of Skywalker, qui, lui, était paru au mois de décembre, ainsi que la novélisation du film. Donc, si on y va avec le livre Art of The Rise of Skywalker, que je vais montrer à l'écran en présent.
Là, le but pour moi, ça va être d'essayer de vous montrer des trucs en même temps que je vais parler. Je vais commencer par faire un peu un survol quand même du livre. Tu l'as dit, le titre, c'est Art of Star Wars, The Rise of Skywalker. C'est a été écrit par Phil, je vais essayer de le prononcer, Phil Zostak. Ouais. C'est pas facile à prononcer. Donc, c'est 256 pages. Puis c'est vraiment de l'art mur à mur avec un peu de texte. Le but du livre, en fait, c'est vraiment de montrer le processus créatif des designers. Toute la quantité incroyable de travail, de reproduction qui est nécessaire pour visualiser tout ce qui est les idées des scénaristes. JJ et Terrio ont écrit plein de choses, mais bon, les designers sont là pour vraiment, en pré-production, essayer de mettre leurs idées de façon visuelle. On voit énormément de choses qui n'ont jamais utilisé dans le film, bien sûr. Mm-hmm. Ça, la majorité, vous ne l'avez même pas vu dans le film.
C'est ça.
C'est des concepts, des évolutions de concepts. Mais le but ici, c'est pas de juger le film vraiment de qu'est-ce que le film aurait pu être. Parce que vous voyez plein de choses là-dedans, puis tu as des concepts qui ont été laissés tomber, et puis expliquent certaines raisons pourquoi tout ça. Le but, c'est pas... il aurait dû faire le film comme ça. Le but, c'est vraiment de regarder l'art, parce que c'est ça le but, là. Voir le concept, comment ça... Tous les efforts qui sont faits par des dizaines de personnes juste pour faire visualiser qu'est-ce que Ralph McQuarrie un peu faisait dans le temps à l'époque. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ici? Bon, le livre, il est vraiment divisé en parties. Puis les parties sont vraiment... il commence avec... une partie sur The Last Jedi. Pourquoi? Mais parce qu'il y avait des choses qui étaient considérées un petit peu trop spoilers. Donc, ils n'avaient pas mis ça dans le The Art of The Last Jedi avant. Donc, ils ont mis dans au début du livre. Après ça, ils vont par département. Donc, le département des costumes, le département des accessoires, des props, département des créatures et droïdes. Puis, ils finissent avec le département artistique, les décors, toutes les graphiques numériques. Donc, qu'est-ce qui fait l'arrière-scène, etc. Vraiment, c'est vraiment au début que tu vois tous les concepts, les costumes, créer les véhicules, etc. C'est vraiment super intéressant. Puis vu une image vaut mille mots, je vais essayer de vous montrer certains trucs que j'ai vus, puis je vais continuer un peu par la suite. Okay. Donc, bien sûr, la couverture, vous l'avez vu, qu'on voit vraiment la dyade de la force qu'il essaie de montrer. Surprenamment, cette image-là n'est même pas dans le livre, elle est juste sur la couverture. Donc... Mais je vais enlever la jaquette parce que l'image qui est vraiment sur le livre est encore plus belle, je trouve. Vous l'avez sûrement peut-être vu, mais c'est vraiment une superbe image.
Oh wow.
Du combat. Et puis on voit un TIE Fighter en arrière, derrière l'eau. Ouais. Là. Comme s'il était dans un hangar ou quelque chose, c'est vraiment superbe. J'ai mis quelques post-it, je vais essayer vraiment de faire ça vite pour pas qu'on s'attarde à juste moi en train de tourner des pages. On commence vraiment avec The Last Jedi. Donc, on voit vraiment tous les concepts qui étaient spoilers. Léa qui flottait, vous voyez. Mm-hmm. Qu'est-ce qui est les dualités de Rey dans la cave. C'est des trucs comme ça.
Il y aurait comme genre la mort de Luke, c'est ça?
La mort de Luke, oui. On le voyait assis sur les rochers dans celui de l'âge Jedi, mais il disait pas qu'il mourait.
Non, c'est ça.
C'est ça, il est dit ici. Ici, j'ai trouvé ça intéressant. C'est le premier concept qui a été montré à Rian Johnson pour le saut en hyperespace à travers le vaisseau de Snoke. Fait que là, Rian Johnson a dit, ben, ça devrait pas être une explosion. Ça devrait couper comme un couteau dans du beurre. Fait que c'est là qu'ils ont changé d'idée. Mais tu vois, au départ, le saut en hyperespace, ils voulaient le faire qu'il traversait le vaisseau comme ça. Puis là, Rian a dit, non, ça serait pas comme ça, un saut en hyperespace à travers d'un véhicule. Mm-hmm. Fait que c'est une sorte de petites affaires comme ça. Ensuite, on va avancer un petit peu. Je vais revenir sur celui-là plus tard parce que ça va avec quelque chose que j'ai à dire d'intéressant. On voit les différents. T'avais le casque rouge, le casque, il aurait pu être doré. Donc, toutes les fissures auraient pu être mises en or ou argentées un peu pour matcher le casque, des choses comme ça.
Ok.
C'était assez vite. Donne-moi 2 secondes. Oh! On a. Dio, là, il y a eu des sketchs pour Dio, là, tu voyais? Oh, vraiment, il y a 4 pages complètes pour Dio, puis ça a été basé à la base sur un petit canard.
Oh. Ouais.
Ils ont commencé avec un petit canard.
J'aime un des concepts montrés sur l'autre page, la deuxième page. Je sais pas pourquoi, ça me fait passer un peu au robot que Nintendo
Jedi
avait. Vous vous rappelez la console Nintendo? Non, la console... Ouais, mm-hmm. OK, ouais, là, tu me le dis, je le vois, là. Mais ce que je veux dire, quand la console Nintendo était apparue en 85, je crois, ça venait avec un robot, là, comment il s'appelait? Rob, je pense, c'était son nom. Mm-hmm. Ça fait passer un peu à ça.
Un concept intéressant qui était, un vaisseau, comment que les... Nouvel Ordre, le Premier Ordre, d'un jeu inconnu... se servait des anneaux d'une planète comme Saturne, puis ça, c'était comme un World Devastator. Ceux qui se souviennent de Dark Empire, ils mangent tous les astéroïdes pour créer avec des minéraux puis créer des vaisseaux à partir de ça.
Ah, c'est cool.
Une sorte de petits trucs comme ça. Que c'est tous des concepts qui ont été abandonnés, qui auraient pu être intéressants à visualiser. Ici, c'est juste pour montrer que à un certain moment, Rey devait aller en dessous de l'eau dans la Death Star. Elle devait plonger et puis faire des tunnels, aller dans des tunnels. Ouais.
Un peu comme on voyait dans le concept du réveil de la force.
Ouais.
Quand elle trouvait le trône de la Death Star sous l'eau. Là.
Mm-hmm. Ici, ça c'est un concept. Ah, j'ai trouvé ça intéressant. C'est juste parce que quand je l'ai montré à l'équipe, vous voyez ici, c'est une base spatiale. Puis vous voyez qu'elle est bâtie comme le logo du premier ordre.
Ouais.
Donc, les structures sont construits comme les espèces de triangles à l'intérieur de l'hexagone. C'est vraiment une super bonne idée.
Wow.
C'est plate qu'ils ne l'ont pas utilisé, mais ils ont préféré faire des Star Destroyers qui sortaient d'en dessous de la Terre, en fait. Ouais. Puis j'ai d'ailleurs cette image-là, un des concepts qui n'était pas en dessous de la Terre, c'était comme des espèces de sas qui s'ouvraient les bases.
Ouais, c'est ce qui a plus de sens que ce qu'on
a. Plus logique, un peu.
Ouais, plus logique, c'est ça.
C'est ça. Et puis, je vais retourner au départ. Je vais juste montrer quelques affaires. Écoute, il y a 256 pages. Il y a tellement de choses. Ici, dans le Costume Department, bon, on voit vraiment. Ici, on a Léa et puis Rey. Puis, pourquoi je montre cette image juste parce que le texte qui est ici est super intéressant et qui continue sur l'autre page. En gros, c'est un de mes faits saillants. Du roman, pardon.
Okay.
Pas du roman, mais du livre, c'est que en plus de ce boulot que je vais vous expliquer, Stostak, vu qu'il n'y a pas de making-of, il n'y a pas de livre making-of pour la prélogie puis la postlogie, je sais pas, Disney n'a jamais voulu qu'il y en ait, ben Phil Stostak, il sert aussi de certaines... Au début de chaque section... Il fait comme un peu un making-of. Donc, il explique telle date on a fait telle chose, telle Odette, on a fait telle autre chose. Un peu probablement comme le documentaire. Je n'ai pas vu le documentaire de Skywalker Legacy où est-ce qu'on voit la production. Mais ici, il y a des dates, puis il explique qu'on a fait ça à telle date. On a décidé de ne pas utiliser ce concept-là à telle date.
Okay.
Comme ça, puis c'est vraiment intéressant à lire. C'est des longs, longs bouts suivis de petits sous-titres en dessous de chaque image qui explique certaines choses plus en profondeur, puis ça aide à mettre du contexte. Parce que des fois, tu dis, c'est quoi cette image-là? Puis là, tu as une explication de JJ en petit en dessous qui explique, OK, ça, c'est son idée ou tel truc.
Mm-hmm.
Mais mon fait saillant du livre, c'est que la page que je vous ai montrée, il y a une discussion. Ils ont mis vraiment le texte de la discussion avec les noms des personnes qui étaient là, qui a eu lieu le 21 mai 2014. Imaginez, 21 mai 2014, c'est une semaine après le début du tournage de The Force Awakens. Donc, JJ, il n'est pas là. Il est en tournage.
Ouais.
Ça fait une semaine que c'est commencé. Puis, c'est un groupe de personnes qui s'appelle le Lucasfilm Intellectual Property Development Group, donc le groupe de développement de la propriété intellectuelle de Lucasfilm, et à ce moment-là, qui était composé de Kiri Hart, Doug Chang, Dave Filoni, Pablo Hidalgo, John Knowles, qui est le chef de ILM, Dennis Muren, mm-hmm. qui est aussi un des chefs de création de ILM, Gary Rydstrom de Skywalker Sound, de Jason McGatlin, qui est le VP pour tout ce qui est production physique des décors, etc. Puis tu as bien sûr Phil Stostak qui était là comme témoin, I guess, vu qu'il faisait le making-of. Et ils ont discuté de qu'est-ce que ça serait épisode 8 et 9. Il n'y avait pas de titre. Il n'avait même pas engagé Ryan Johnson encore. C'est en 2014, là.
Ouais.
Imaginez, là, c'est vraiment début. Il commence à tourner The Force Awakens. Puis là, c'est Doug Chang qui posait la question que, bon, vu que Léa était la sœur jumelle de Luke, elle devait être sensible à la force et ça devait être elle qui vaincrait le mal à la fin. Donc, le evil, le big evil. Puis là, la discussion a continué avec le fait que la trilogie est centrée sur les femmes puis que tout le monde va s'attendre que ce soit Luke, le mentor de Rey, et pas Léa. Puis c'est pour ça que ça devrait être Léa qui serait la Obi-Wan de la trilogie, avec toute l'expérience d'avoir perdu sa planète, son fils au côté obscur, son mari, puis t'as le symbole de la mère, la naissance, la régénération, et un monde qui a besoin d'être soigné, qui est une bonne réflexion de la société d'aujourd'hui. Puis il faisait mention que George, c'est ça qu'il faisait dans la trilogie originale, c'est une réflexion un peu des années 70 et avant dans ses films. Là, il pensait que c'était très à propos d'utiliser ça. D'avoir Léa comme mentor, c'est elle qui serait le côté central de tout. Mais bon, Carrie Fisher est encore vivante à ce moment-là, puis c'était probablement qu'est-ce qu'il voulait faire après. Donc, si tu trouvais ça super intéressant comme passage, c'est plus intéressant dans tout ce qui est le making-of du film. Mais ça montre qu'ils se sont réunis. C'est plate que JJ n'était pas là pour comprendre ça. Peut-être.
Ouais.
Ou Kathleen Kennedy, peut-être.
Ouais, ouais. Ils ont manqué ce meeting-là.
C'est ça, c'est quand même un meeting important. C'est le développement de la propriété intellectuelle de Star Wars, de Lucasfilm. T'sais. En tout cas.
Parce qu'ils disaient, ils l'ont dit au début que tu avais le Réveil de la Force qui était le film de Han Solo. Ce qui est devenu les derniers Jedi, c'était Luke. Puis le dernier film, ça devait être. Le focus devait être sur Leia. Puis là, bon, qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas pu arriver, là, mais comme tu dis, ça va avec ce que tu viens d'expliquer. Là.
Mm-hmm. Bon, le livre, vraiment, là, j'ai tout donné des bons points négatifs. Là, ceux qui aiment l'art, là, c'est super. Mais bon, les points négatifs. Il y a plein d'affaires que j'aurais voulu voir là-dedans. Ils ont fait encore... Ah, c'est spoilers, on le met pas. Ah, les concepts des sabres de Léa, j'aurais voulu voir ça, tous les concepts de sabres qu'ils ont fait. Il n'y a pas de Palpatine là-dedans.
Non plus, hein?
J'aurais voulu voir les concepts du bras qui tient Palpatine.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi les concepts de son trône? Il a dû avoir plein de trônes différents qui ont essayé en concept. J'aurais bien aimé ça, voir ça. On voit pas Snoke dans des cylindres de clonage, pantoute. On n'a rien à l'intérieur d'Exegol. Absolument rien sur le combat final avec Rey et Ben Solo revenus du côté clair. Mm-hmm. Et puis, il y a absolument rien sur Rey sur Tatooine à la fin non plus. Donc, c'est vraiment un fail de ce côté-là. Puis, c'est mon gros problème avec ce livre-là. Je comprends que certains éléments sont spoilers, mais c'est le dernier film de la saga. Okay.
Ben, c'est pas juste ça, c'est qu'aussi le livre sort quoi, 4 mois après. Ouais, 3-4
mois
après.
Après le film. Ben, oui.
Exactement.
Exactement, c'est comme, c'est quoi l'idée? Le film est fini, là. Ça devrait inclure absolument tout
exact.
Dans ce livre-là. Parce qu'on n'attendra pas le film de Rian Johnson, le Art of the Rian Johnson, pour mettre le petit bout manquant de Rise of Skywalker. Ça marchera pas. Là. Ça fera pas de sens. T'sais.
Il y a ça. Puis aussi le fait, on le savait depuis le Celebration que Palpatine était impliqué dans le film d'une façon ou d'une autre. Avec la bande-annonce, puis avec Ian McDermott qui a apparu sur le stage quand ils ont présenté la bande-annonce. Fait que, tu sais, c'est ça, je comprends pas c'est quoi qu'ils ont essayé de faire avec ça, de le cacher. Parce que, comme tu dis, là, surtout là, tu sais, tout le monde a vu le film, il y a le Blu-ray qui est sorti, tu sais, tous les livres sont sortis, il y a aucune raison de pas l'inclure, là.
Donc, c'est à peu près ça que j'avais à dire par rapport au livre. J'aurais donné une super bonne note, mais à cause de ce fait, à la fin, j'ai descendu ma note à 15 sur 20.
Okay.
Mais heureusement, même si vous aimez pas le film, c'est un livre qui vaut la peine parce que c'est juste voir l'art, ceux qui aiment l'art, les concept art, quoi que ce soit. T'as pas besoin d'aimer le film pour aimer ça.
Moi, je les achète depuis la prélogie. Puis tu vois, celui-là, je l'ai pas eu encore, mais là, avec tout ce qui se passe, je peux pas le commander puis le recevoir genre demain. Là. Mais non, c'est sûr, je vais me le procurer parce que c'est comme tu dis, l'art puis tous les concepts de voir. Comment un personnage quoi, l'évolution du personnage, c'est super cool, là. C'est vraiment à t'avoir.
Écoute, t'as des concepts avec Poe Dameron avec la grosse barbe, là. Puis t'as une espèce, t'as un concept avec Finn avec une espèce de bomber jacket, t'es quasiment jaune fluo, là.
Ok.
C'est vraiment spécial.
Ouais.
Cool. Donc c'est ça, c'est ce qui couvre pas mal The Art of the Rise of Skywalker, qui est probablement un des meilleurs livres qu'il va avoir, je pense, d'après moi, pour The Rise of Skywalker.
Ouais. Alright, excellent. Donc, on va passer au deuxième livre, qui est le Visual Guide pour The Rise of Skywalker, que je monte à l'écran présentement. Donc, ce livre est paru au mois de décembre. Hein. Il est paru la journée que le film est sorti en salle. Donc, le Visual Guide, comme les autres Visual Guides qui sont parus avant, ça donne plein de détails sur tout, presque tout. Ça donne plein de détails sur comment, c'est quoi, mettons, qu'il y a dans un tel vaisseau. C'est quoi, le costume du Sith Trooper, bon, ben c'est quoi. Telle arme est faite comme ça. C'est quoi les chevaliers de Rand, tout ça. Donc, honnêtement, si vous voulez en savoir sur... Si vous voulez en savoir plus, donc si vous avez vu les films et vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce qu'on voit dans le film, des personnages qu'on voit dans le background ou quoi que ce soit, c'est tout expliqué dans ce livre-là. Même il y a une supposément référence de qu'est-ce qui est devenu de Dengar, hein, qui est là-dedans. Dengar qui veut juste se modifier, mais qui est comme vraiment affreux à la fin. Ouais, c'est ça, tu montres les
Yaki. Il y a vraiment, qu'est-ce que je dirais sur ce livre-là, c'est si vous êtes un cosplayer, là, écoute,
ouais, c'est ça.
À part les deux livres de costumes qui existent, un pour la trilogie originale puis un pour la prélogie, là, c'est les guides visuels qui vont vous aider à avoir le plus de détails possible. Moi, qu'est-ce que je trouve qui est décevant, beaucoup, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de remplissage là-dedans. T'sais, une image de Rey, par exemple, puis c'est comme s'il fallait absolument qu'il mette tout plein de détails. Écoute, t'as l'habit de Rey, puis t'as une espèce de pad, un coussin sur son genou, puis il pointe, il marque protection pour Rey quand elle s'entraîne. Ben oui, c'est des pads sur ses genoux, ok. Là. C'est comme, t'as-tu besoin vraiment de marquer ça?
Ouais, c'est ça.
T'sais, c'est comme, il y a un peu de remplissage, puis j'ai l'impression que, encore une fois, vu qu'ils ont été obligés de couper plein de choses, qui a rempli, tu sais, comme la partie sur Passana avec. Non, sur Kef B, avec toute la bande de
ouais, Janna, puis tout ça.
Janna, tout ça. Ils ont tellement mis de pages là-dessus. Ouais. T'as vraiment pas besoin d'avoir tout ça, là. Comme. T'as Janna. Après ça, tu vas avoir. ses compatriotes quelques armes. Ok, c'est correct. Si tu veux faire des props, c'est cool. Tu sais, comme après ça, hey, un double page juste sur les bestioles, les Orbac. Ok. Écoute, le skiff, ça c'est quand même intéressant. Ils ont intégré les cross-sections, qui est intéressant. Ils ont fait un peu comme le livre de Rogue One. Pas Rogue One. Oui, Rogue One et Solo, je pense qu'ils ont intégré les cross-sections avec les livres cross-sections avec les visual guides.
C'est aussi dans ce livre-là, excuse pendant que je cherche, c'est dans ce livre-là aussi qu'il laisse sous-entendre que Janna était la fille de Lando.
Oui, c'est la première fois qu'on l'a mentionné. Même chose pour certains escadrons des Sith Troopers qui confirment certains Sith. C'est là-dedans qu'il y avait aussi le controversé. Au lieu d'utiliser BBY, donc Before Battle of Yavin, il avait commencé à noter BSI pour Before Starkiller Incident. On, bon, je ne sais pas si on va le voir, là, mais c'est des petits BSI à la place. C'est comme sérieux, là, comme c'est pas le temps de faire comme ça.
C'est Disney qui veut tout réimaginer. Là, c'est comme...
C'est ça. j'ai beaucoup aimé la partie avec tous les trucs qu'on voit dans les livres. On a même le Wayfinder qu'on voit dans que Luke récupère dans le jeu Battlefront, dans la campagne. Ouais. Et je dois dire qu'on a les détails des pages dans le Art of, en beaucoup plus de détails. Les concepts art. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai noté? Les Knights of Ren, ça, c'était tes as individuellement. Là. C'est vraiment, vraiment bien, là.
Encore une fois, aucune mention de Palpatine, Snoke ou quoi que ce soit. Pareil comme le livre Art of. Ça aussi, c'est décevant.
Un beau cross-section ici, le Treadable, le véhicule de Lando.
Oui.
Il est vraiment bien.
Ouais, pour ça vaut vraiment la peine.
C'est ça. C'est des livres de chevet. On appelle ça des beaux livres, vraiment, en France, mais... Ici, on dirait que c'est des livres que tu laisses traîner sur ta table à café. Les gens qui viennent chez vous, ils feuillettent, puis c'est vraiment des livres cool à avoir. Là.
Ouais.
C'est vraiment les seuls livres que j'achète encore papier maintenant.
Oui, c'est bon ça. Ouais. Fait que moi, dans mon cas, je donne un 15 sur 20. Encore une fois, aucune mention de Palpatine, aucune mention de... Même tout ce qui est côté site, hein, on ne voit rien de ça.
Ça après, il n'y a rien sur la bataille de la fin. Là. Vraiment,
non,
la flotte, on la voit pas. Il n'y a rien.
Il n'y a pas Hexagole et tout ça, c'est pas dans le livre. C'est dommage parce que il me semble que ce serait une des sections qui serait le plus intéressant à en savoir plus parce qu'il n'y a aucune explication de nulle part. Donc, juste de voir c'était qui les disciples Sith qu'on voyait dans le stade et tout ça. C'est juste en tout cas.
Mais encore une fois, c'est un livre qui a été fait par Pablo Hidalgo, puis je crois qu'il s'est fait dire, lui avait probablement planifié, puis un jour, puis il a dit tu coupes cette page-là, tu coupes cette page-là, tu coupes cette page-là.
Ouais,
et puis il remplit. Fait que là, ils ont étiré la sauce, ok, on va prendre Kef Beer, puis on va splitter en plusieurs pages. Écoute, il y a un focus quasiment juste sur l'arc de
Janna.
Janna, c'est ça.
Ouais.
Donc, Il y a beaucoup, beaucoup de remplissage. C'est malheureux. Mais bon.
Ouais.
C'est la réalité de Disney, il faut croire.
Ouais. All right.
Pour ma part, 13 sur 20. Ouais.
13 sur 20, ok.
J'ai pas aimé le remplissage. J'ai pas assez vite. Puis je lisais les textes, puis les images, c'est super. Puis c'est plus quand ils montraient les planètes ou la carte de la galaxie, qui d'ailleurs, c'est très intéressant. Parce que dans Rise of Skywalker, ils ont très peu de temps pour faire tout ce qu'ils ont à faire. C'est une demi-journée ou quelque chose comme ça.
C'est
en nombre d'heures.
Ouais.
Et puis, si tu regardes sur la carte de la galaxie, comment que tout est à l'opposé. Ils ont fait le tour complet de la galaxie comme dans ces deux, trois heures-là.
Wow.
C'est comme, t'as une affaire dans Unknown Region, t'as une affaire dans le sud, t'as une affaire plus au nord, comme où est-ce que la base rebelle est. Puis c'est comme... Oh my god, c'est comme sérieux. Je vais essayer de le montrer rapidement parce que je trouvais ça vraiment spécial. C'est assez sombre. Ok, j'ai. Alan Kloss, qui est la base, est en haut ici, ok? Après ça, t'as Kef Beer. Attends, il faut que je trouve Kef Beer.
Il devait être proche de Andor.
Est en bas ici. Donc, ils sont partis d'en haut. puis Kev Beer est ici, puis Exegol est comme dans les régions inconnues ici. Là. Ils ont vraiment complètement traversé la galaxie. Là.
En 26 heures.
Ben, c'est ça.
C'est ça.
Fait que c'était un peu...
Ouais.
Fait qu'il n'y avait pas le choix que JJ choisisse ces planètes-là.
C'est pour ça que c'était mieux avant les films, quand il n'y avait aucune mention de temps dans les films. Comme ça, ouais. T'imaginais que ça prenait une couple de jours et non une couple d'heures se rendre à tel endroit. Là. Parce que, ouais. Même dans les livres, hein, que je me souviens des romans, je pense à la trilogie de Tron que Timothy Zahn avait fait, là, t'sais, je me suis expliqué, OK, pour aller à tel endroit, ça prenait comme une semaine. Il se préparait pour être une semaine dans le vaisseau, tout ça. C'est ça. Là, c'est comme non. Tout ça passe vite maintenant.
Ben, c'est ça.
Alright, donc dernier livre ce soir que nous allons parler.
D'ailleurs, je vais aller chercher.
C'est la novelisation du film The Rise of Skywalker qu'on voit ici à l'écran. Donc, livre écrit par Ray Carson. Livre qui est paru aussi à la fin mars, hein, au début mi-mars à peu près.
18 mars.
Merci, 18 mars. Première chose que j'ai remarqué, je sais que tu montres le livre, ce n'est pas épais du tout comme livre. Non. Seulement 250 pages pour ça. Totalement l'opposé de ce qu'on a eu avec la novelisation des derniers Jedi de Solo. Surtout que c'est
Rogue
la version...
Oui,
Rogue One aussi. Surtout que c'est la version, il marque ici, hein, c'est l'édition étendue, donc... C'est ce qu'on nous avait promis, c'est qu'il va y avoir plein de scènes qui sont pas dans le film. On va rajouter là, ben, ceux qui ont lu les novelisations des derniers Jedi puis Solo, ont su à quoi s'attendre parce qu'ils ont vraiment développé beaucoup de choses dans ces livres-là. C'est pas du tout le cas avec celui-ci.
Mm-hmm.
Non. Je pense, Cécilie, je sais que tu voulais nous en parler un peu, fait que je vais te laisser y aller.
Okay. Ben, avec mes commentaires, j'ai trouvé que le livre était fluide, simple, mais je trouvais que je parcourais tellement les pages vite. Honnêtement, c'est pas une lecture qui m'a plu comparativement aux autres livres de Star Wars que j'ai lus. Il y a juste quelques scènes qu'on n'avait pas vues dans le film. La plupart tournent autour de Zori et de Babu Frick.
Mm-hmm.
Je pense qu'on a, si je me souviens bien, on a une scène supplémentaire de Leia sur Ajan Kloss. On en a une avec Chewbacca et Kylo Ren et une avec Lando. Fait que c'est pas, je veux dire, je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux, plus de détails, mais l'auteur a une écriture simple puis pas quelqu'un qui va décrire énormément les scènes, ça va être vraiment comme le plus rapidement possible.
Ben, c'est parce que t'as l'impression de lire le scénario.
Ben, c'est ça.
Moi, c'était mon impression, là, c'était comme, c'est vraiment du mot pour mot ce qui est dans le scénario.
Moi, j'avais l'impression qu'elle avait le film devant elle, elle faisait pause, elle écrivait son comme ses phrases, elle refaisait play, elle continuait, ok, ils ont fait ça, elle réécrivait. Puis si quelqu'un se demande est-ce que je devrais le lire, moi, je le conseille pas. Parce que t'en apprends pas tant que ça, tu seras pas perdu après en écoutant d'autres films. C'est pas nécessaire à lire, je trouve.
Mm-hmm. Ah, ouais. En fait, c'est vraiment. Comment dire, si t'as aimé le film, tu vas aimer le roman.
Ouais.
Ouais, c'est juste que le roman prend plus de temps
à
raconter l'histoire. Parce que dans le film, là, c'est comme ça vole à 100 000 à l'heure, là, comme t'as pas le temps de. Tandis que ça ralentit le rythme un peu, puis ça, c'est un peu plus agréable, disons, là.
Mm-hmm.
Dans mon livre, il y avait aussi quelques pages avec des images du film, un peu comme dans les livres de biographie. Mm-hmm. Selon moi, c'est pas vraiment, ça a pas sa place dans un livre d'histoire comme ça, là, dans un roman. Moi, je vois plutôt ça dans les biographies. Il y en avait dans la biographie de Anthony Daniels. Il y en avait dans, sur ces images-là, Ça n'apporte pas grand-chose supplémentaire. C'est pas des images qu'on n'a jamais vues. C'est juste le film. Y a la scène que j'aurais aimé vraiment voir dans le film, c'est quand Kylo Ren va voir Chewie dans la cellule sur le Star Destroyer, puis il essaie d'y soutirer des informations sur Rey dans la tête à Chewie, mais Chewie fait juste penser à Ben quand il était enfant, il lui a montré comment tirer, ses affaires. J'aurais aimé ça, voir ça dans le film. Je trouve que ça leur a apporté quelque chose de plus, mais malheureusement, on l'a pas eu. Puis les scènes rajoutées, c'est comme une page ou deux, là. C'est pas un chapitre complet, là.
Il y a eu beaucoup de hype en ligne sur les possibles développements qu'il y aurait dans le livre. Les sites web sont partis avec un petit détail, puis ont explosé. Là. Oui, c'est cool de voir Kylo Ren sur Mustafa qui va voir l'oracle.
Oui, il y avait cette scène-là aussi, ouais, j'ai oublié.
Tu sais, un peu plus de détails sur Palpatine, tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 30 dernières années. Ça règle pas le scénario du film du tout. Il y a rien qui est expliqué dans le roman qui va nous faire mieux comprendre le film. C'est juste des détails supplémentaires, tu sais.
Il y avait aussi Luke qui parlait à travers la force à Leia à quelques reprises. Il disait « Viens me rejoindre, c'est le moment. » Puis elle a dit « Non, j'ai pas fini mes affaires, j'ai autre chose à faire avant. » C'était minime.
Mais ça, je pense qu'il l'avait dans le film, ça.
Je me rappelle pas l'avoir.
Mais c'est vrai que Léa a un peu plus de scènes que dans le film, puis là, il y avait le choix de développer un peu plus parce qu'il était pas limité par les scènes tournées avec Carrie Fisher. Fait que t'avais un peu plus de conversations, Léa avec Rey, Léa avec d'autres personnages qu'on n'avait pas dans le film qui était un petit peu plus intéressant. Mais comme tu dis, le plus gros développement, je dirais, c'est vraiment Zuri Bliss et Baby Freak quand qui tout comment ils se sont sauvés de Kid Jimmy avant que le Star Destroyer arrive pour détruire la planète. T'sais. Puis ça, c'est un autre petite storyline vraiment séparée qui comme le... C'est-tu l'Amiral Pride ou le Général Pride? Je ne me souviens pas. Tu sais, qu'il y a une femme capitaine, puis elle est toute contente de partir pour aller détruire la planète, puis elle est toute fière qu'ils ont fait confiance, puis tout ça. Puis là, il y a une bataille, puis là, elle perd. Puis là, tu vois que Pride s'en foutait bien raide. C'était du Bento Father, comment tu dis?
De la merde.
Non, mais tu sais, c'était... J'essaie de trouver le mot. Peut-être que dans le chat, ils vont le trouver, mais expendable, mais tu sais, c'est...
C'était comme un appât, là.
Ouais, c'est ça. Ou c'était pas grave de perdre ce...
Ouais,
en tout cas, des trucs comme ça. Il y a peut-être des petits trucs que j'ai trouvé intéressants, comme il y a la mention du Lady Locke, donc le vaisseau de Lando.
Mm-hmm. Ouais.
Je pense qu'il était aussi dans un autre roman, dans Mort-Vif. Baroud d'honneur. J'essaie de me souvenir, c'était dans lequel livre... La Shot. Dans La Shot. Et j'ai noté aussi... Il y a un petit lien avec Vader Mortal quand il est sur Mustafar. Il y a un lien avec Krovax Fenn c'est que la planète est en train de se régénérer.
Ouais.
Puis dans le Art of, il parle... t'as JJ qui dit ou Terrio, je me souviens plus lequel des deux, mais il dit comment qu'on pourrait développer Mustafar 40 ans après. Comment ça commence à repousser pis tout ça. C'est pour ça que les arbres sont tout petits. Il n'y a pas d'arbres géants sur Mustafar. T'as un lac d'eau chaude où c'est que t'as l'oracle et tout ça. Donc il y a beaucoup d'art sur l'oracle dans The Art of. Je vais essayer de vous trouver une belle image d'ailleurs pour ça. Là.
Ben, il n'est pas très beau.
Ben, il y avait même, je pense, il y avait des séquences finies. Parce que c'est comme ça qu'on a vu même une image qui était complétée. Hein. Pendant que tu cherches ça, une couple de choses que le livre confirme. Ben, premièrement, Palpatine, c'est un clone.
Ouais.
Hein, ça confirme que Palpatine est c'est un clone. Qui utilisait les techniques de Darth Plagueis pour rester en vie dans le corps du clone. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est de dire que même Darth Plagueis n'avait jamais été capable de perfectionner cette technique. Donc, son corps est brisé et il est en train de mourir.
L'espèce d'araignée dégueulasse. Là,
qui est sur une tête de bébé, vraiment. Là.
Ouais. L'autre chose aussi qu'on apprend, c'est que le fils de Palpatine, c'est un clone. Le papa de Rey, c'est un clone, c'est pas
un clone de Palpatine.
Un clone de Palpatine, ouais.
Ça fait très Dark Empire, celui de la vieille BD de légende,
c'est carrément. Puis tu sais, c'est une des parties qu'on aimait pas de la légende, mais en tout cas, les autres ont décidé de prendre ça. Donc, bon, ok, on voit les clones de Snoke un peu dans le film. Mais ce que ça nous explique, c'est que avec Snoke qui essayait de perfectionner Palpatine sans être capable. Donc c'est pour ça que Snoke est comme déformé. Ils n'ont jamais été capables de faire un clone parfait, si je peux dire. Il explique aussi c'était quoi le Force Dyad qui était supposé être comme la grosse chose que Palpatine cherchait dans le film. Dans le Force Dyad, c'est un peu comme le yin-yang. C'est que Rey et Ben Solo représentent chacun un côté que ensemble c'est ce qui ferait la règle des deux, ce qui amènerait le perfectionnement de la règle des deux pour les Sith. Il y a un peu plus de scènes avec Rose aussi dans le film. Dans le livre qu'on voit pas dans le film. Cécilie t'en a parlé, il est là-bas aussi sur l'entraînement Jedi de Léa. Mm-hmm. On apprend que Luke il avait commencé à l'entraîner tout de suite après le retour des Jedi, donc il avait commencé son entraînement sur Endor. Vous avez parlé de Zuri Bliss. Encore une fois, il parle de Jenna qui pourrait être la fille de Lando sans toutefois rien confirmer.
Non, c'est ça.
Puis la dernière chose, c'était les Sith Eternal. C'est ça que je parlais tantôt, là, les ceux qu'on voit dans le stade et tout. C'est des membres du premier ordre, c'est des loyaux de Sith, des loyalistes Sith. C'est surtout des enfants kidnappés. Hein? Et ce qu'on apprend, c'est qu'ils n'ont jamais quitté Exagol. Tout ce qu'on voit, toutes les personnes qu'on voit sur dans le stade, c'est eux qui ont développé la flotte qu'on voit décoller d'Hexagol, mais eux n'ont jamais voyagé sur une autre planète ou quoi que ce soit. Mais à part ça, c'est tellement expliqué rapidement que des fois, si tu lis trop vite, tu y portes pas attention.
Ah ben, c'est ça,
tu l'as complètement manqué.
J'écoutais l'audiobook, puis je perdais concentration pendant 2 secondes, parce que je faisais autre chose, puis whoops, je l'ai manqué, tu sais. Une chose que j'avais trouvé drôle, c'est... tu sais, Lando, à un moment donné, il retourne dans le faucon. Puis il s'en va dans la chambre à Chewie. Puis il regarde la chambre à Chewie, puis c'est là qu'il gardait ses capes.
Ouais.
C'était
ouais.
Comme sa garde-robe de capes. Puis il dit, ben, j'avais tant de capes que ça, parce que là, c'est l'appartement de Chewie, c'est son, ouais, sa c'est chambre.
Ouais, puis il y avait, dans sa chambre, il y avait une espèce d'hologramme avec Chewie qui tenait Ben Solo, je pense, quand il était enfant. Mm-hmm.
Mm-hmm. Tu voyais que Chewie n'avait pas abandonné Ben Solo. Il croyait encore qu'il était redeemable, qu'il pouvait avoir une rédemption quelconque, là, au bout du compte. Là.
Ouais. Moi, je le conseille pas vraiment. Comme Danny a mentionné, si vous avez aimé le film, vous allez l'aimer. Mais je veux dire, c'est pas... moi, je trouve premièrement 250 pages. J'ai beaucoup de difficultés avec un roman de 250 pages. Un roman jeunesse, je peux comprendre. Un roman pour jeune adulte, mais aussi le prix est moins cher. Là, payer un livre à combien ici?
Je pense que c'était 35$, 36$, quelque chose de même.
39$ canadien. Donc, c'est un livre plein prix pour un livre de 250 pages. Non, ça c'est un gros non pour moi. Fait qu'imagine, là, c'est pas pire comme l'audiobook si vous avez Audition. Pas Audition. Comment ça s'appelle?
Audible.
Ouais.
Audible, merci. Donc, si vous avez Audible, bon, vous avez votre crédit à tous les mois, donc vous payez pas vraiment. C'est comme si vous l'avez payé 15$. Sinon, à plein prix, c'est quoi? 30-40$, je crois. Mais non, j'ai été extrêmement, extrêmement déçu. C'est un livre que j'attendais beaucoup, que j'avais adoré, la version des derniers Jedi et la version de Solo. Donc, je m'attendais à le même type de traitement pour ce livre. Et ce ne fut pas le cas, donc pour moi, c'est un gros 10 sur 20 que je donne à ce livre.
Oh, j'ai même pas pensé à ma note.
C'est 11.5 sur 20.
11.5.
Ouais.
Danny, de même, là, sur le fly. Là.
10.
Et voilà.
10 ou 11, là. Je serais tenté même, je l'ai pas lu celui-là, parce que j'ai écouté l'audiobook, peut-être faire un petit concours... ceux qui habitent au Québec, parce que ça va me coûter un bras à envoyer ça en Europe. Mais s'il y en a au Québec, je peux envoyer nous un courriel ou quelque chose pour faire un tirage quelconque. Il faudrait poser une question peut-être. Là. Je sais pas, on a une idée. Combien de pages? Et voilà.
Combien de pages est le livre? Ouais, on l'a mentionné. Dis rien, on l'a
combien
mentionné.
Combien de pages exactes? Parce que t'as pas donné le nombre exact.
Ok, attends.
Ouais, ben là, disons que le dernier numéro qu'on voit là.
C'est 247. C'est le dernier chiffre qu'on voit.
Ouais.
Donc, livre 247 pages. C'est le chiffre à retenir. 247.
Et voilà.
Ouais.
Donc, studio@starwars.direct.
Mm-hmm.
Ah ouais. Oui. Et voilà. Je vais essayer de vous envoyer ça. Dans le confinement, ce sera pas évident. Là. En tout cas, je vais essayer de trouver une façon de vous l'envoyer. Là.
Ben, ça marche, le courrier.
Ouais, je suis pas collé, moi, aujourd'hui.
OK.
Ouais. Ouais. All right. Donc, c'est une émission quand même assez courte. C'est tout ce que nous avons à discuter ce soir.
Il
n'y
a pas grand-chose à dire. Hein. C'est un film qu'on a vu.
Oui, on en a parlé amplement.
On fait juste dériver. Oui, on aurait pu aller plus en détail dans le Visual Guide, mais bon, on voit un million de personnages, on voit des véhicules, des cross-sections. C'est la même chose que vous voyez ailleurs, dans les autres versions de ces livres-là. Donc,
Ouais. Alors, c'est sur ce que nous allons conclure cette édition de Star Wars en direct. Donc, comme toujours, si vous avez commentaires ou questions sur ce que nous avons discuté, vous pouvez nous contacter à l'adresse studio@starwars.direct ou sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram ainsi que notre chaîne YouTube. Et surtout, n'hésitez pas à partager nos émissions sur vos réseaux sociaux. On rappelle, pour joindre notre communauté de fans et participer à nos enregistrements live, vous avez juste à joindre notre serveur Discord. Et de plus, nous avons notre boutique Star Wars en direct avec plein de... pas juste des chandails Star Wars en direct, mais d'autres chandails que Danny design assez particuliers, qui fait qu'ils sont super intéressants.
Je suis en retard, là.
Ouais. Mais il y en a beaucoup, alors allez-y, là, il y a plein de choses intéressantes à vous procurer. Donc sur la page Facebook, il y a le bouton Shop Now, et sur notre page web StarWars.direct, si vous allez dans le menu, il y a une section boutique. On rappelle que Star Wars en direct est disponible sur les plateformes Deezer, Spotify, iHeartRadio, Stitcher, Google Play, et ainsi que Apple Podcasts. Et on remercie une dernière fois nos partenaires Minton Box, Star Wars Olonet, Sitclan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, ainsi que Génération Star Wars et Science Fiction. Donc, de la part de Danny, Sicily et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous.